C'est sûr que le message est contradictoire un peu, mais c'est à chacun à prendre sa responsabilité.
S'il n'y avait qu'une leçon à tirer, c'est l'importance capitale de la vaccination.
Bonsoir tout le monde. Ce qu'on craignait avec la septième vague est en train de se produire. Il y a de nombreuses urgences à travers le Québec qui débordent. C'est le cas notamment dans les Laurentides où le Centre intégré de santé et de services sociaux demande à la population d'éviter carrément de se rendre à l'hôpital pour des problèmes qui ne sont pas urgents. Donc, ça touche notamment les hôpitaux, je regarde ça, donc de Saint-Jérôme, Sainte-Agathe et Saint-Eustache, entre autres. Et la COVID aujourd'hui, eh bien, c'est près de 2000 nouveaux cas, 1887 hospitalisations. Et là où ça fait mal, c'est au niveau des travailleurs de la santé. Ils sont plus de 7100 à être absents en raison du virus. Bref, les vacances d'été. Avec les vacances d'été, bien, le réseau de la santé a mal. Donc, les cas augmentent et pendant ce temps-là, bien, on le sait, aucune nouvelle mesure, sauf des recommandations. Et justement, je vais aller en parler avec ma collègue Anaïs Elbouche-Daini. Salut Anaïs.
Bonsoir.
Donc là, est-ce que la population suit les conseils de la santé publique en portant, par exemple, le masque dans des endroits bondés comme tu es, où tu es présentement?
Bien, là, je constate qu'en ce moment, non, pas du tout, on est dehors, mais aujourd'hui, je me suis rendue là, auprès de métro, d'autobus, et les gens le portent de plus en plus, sachant que ce n'est plus obligatoire dans les transports en commun. Là, c'est à peu près 50 %. Et ce que les gens m'ont dit, c'est que oui, il y a une inquiétude, mais pas outre mesure. On comprend bien qu'on est dans la septième vague et on veut prendre les précautions. Mais ce qui est clair, c'est que les gens trouvent que le message de Québec, il est confus. Je vous laisse entendre quelques personnes que j'ai rencontrées à la sortie de métro, d'autobus, qui disent qu'ils sont prêts à faire des sacrifices, à reprendre le masque s'il devient obligatoire.
Bien, moi, j'ai commencé à le remettre au travail quand je vais à des événements comme le festival de jazz, par exemple. Donc là, je suis allé au festival de jazz par la suite. Pendant quelques jours, j'ai porté le masque au cas où. Quand je prends le métro, des fois, ça m'arrive de porter le masque si j'ai pris des risques dans les journées avant.
Ça va faire. Tu sais, moi, j'ai 4 vaccins. Je suis prêt à en prendre un cinquième. Mais le masque, je ne peux pas accepter ça.
Dernièrement, on dirait que les gens, ils ont comme dû laisser aller. Hein?
Bien, c'est pas très clair, en fait. C'est 5 jours ou 10 jours, là, c'est pas très, très clair.
So I don't think I would blame individual people for not following the exact rules because it's kind of confusing a lot of the time.
C'est sûr que le message est contradictoire un peu.
Bon, donc là, les gens semblent quand même un petit peu mélangés. Puis il faut dire que ce ne sont pas les occasions de rassemblement qui manquent en plus en ce moment, là.
Il y a des rassemblements là, qui pleuvent. Là. Les festivals se chevauchent à Montréal de semaine en semaine. On a eu les Francofolies, le festival de jazz. La semaine prochaine, on va avoir le festival Juste pour rire, Nuit d'Afrique. Donc, on comprend là, qu'il y a plein d'occasions de fêter dans un contexte où il n'y a plus de mesures sanitaires. Et à Québec, en ce moment, bien, il y a le Festival d'été de Québec. Et là, avec la hausse des cas, on s'est demandé, est-ce qu'il y a un lien? Eh bien, l'INSPQ nous dit qu'ils sont incapables d'infirmer ou de confirmer s'il y a un lien entre les festivals, le fait que les gens ne portent plus de masque et la hausse des cas. Même chose du côté du Centre hospitalier universitaire de Québec, qui, lui, dit on accueille les gens, on les soigne. Je vous laisse l'entendre, suivi d'un organisateur de festival.
Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Chez nous, les patients qui consultent leur statut COVID, on ne fait pas d'enquête sur la source de la situation. C'est la santé publique qui est en charge de cela.
Au mois de janvier, on a décidé de se lancer dans l'organisation. On pensait que la lumière arrivait, là, et puis on s'est dit go, on part quand même, puis si jamais il y a de quoi, ben, on annulera encore une fois. Mais là, on a le soleil avec nous, donc tout va aller bien pour boire du cidre.
Merci beaucoup, Anaïs.
Merci.
Et là, au lendemain de l'approbation de Santé Canada pour la vaccination contre la COVID-19 chez les enfants de 6 mois à 5 ans, eh bien, ça vient avec son lot d'inquiétudes pour bien des parents. Même si en soi, ça demeure une bonne nouvelle dans la lutte contre la pandémie. Et pour l'instant, bien, c'est le vaccin de Moderna qui a eu le feu vert, mais celui de Pfizer devrait suivre bientôt. Et on va tenter d'en savoir plus avec la pédiatre immunologue au CHU Sainte-Justine, Hélène Décalué. Bonsoir, docteur Décalué.
Bonsoir.
Donc, d'abord, est-ce que c'est une bonne idée de vacciner vraiment tous les enfants ou si on doit surtout se concentrer sur ceux qui ont des conditions, par exemple, particulières, là?
C'est une très bonne question. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le vaccin maintenant est autorisé et que c'est vraiment une excellente nouvelle qu'on puisse vacciner tous les enfants, en fait, toute population à partir de 6 mois. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est sûr qu'on a des enfants qui sont à risque d'avoir des infections plus sévères de la COVID, des enfants qui ont déjà des maladies chroniques, comme des maladies pulmonaires chroniques, des maladies cardiaques chroniques, des retards de développement ou une obésité importante, des patients qui auraient un déficit immunitaire ou qui seraient fortement immunosupprimés. C'est des patients qui sont quand même à risque d'avoir une infection par la COVID plus sévère qu'un enfant qui serait en bonne santé. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est que ce vaccin-là est maintenant disponible pour ces enfants-là. Après, l'autre question, c'était savoir pour les enfants en bonne santé, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'il faut savoir que ce vaccin-là a une dose différente de la dose de l'adulte. On n'a pas un nombre énorme d'enfants qui ont été vaccinés dans ce groupe d'âge-là, mais on a un très grand recul, on a un bon recul par rapport à la vaccination des enfants d'âge scolaire et des adolescents.
C'est ça.
Et donc, on sait qu'en fait, le vaccin est quand même bien toléré dans cette population. Et dans l'étude de Moderna, en fait, il montre que chez les tout-petits, avec la petite dose de vaccin qu'on donne, c'est un vaccin qui est bien toléré et qui est efficace.
Donc, mais justement, c'est pas la même dose qu'un adulte. Les enfants reçoivent quoi? C'est le quart d'une dose pour adultes?
Exact,
est-ce qu'il peut y avoir quand même des complications ou non?
Bien, en fait, avec le recul qu'on a actuellement sur cette dose-là, on voit que c'est un vaccin qui est bien toléré, comme les autres vaccins qu'on donne de façon routinière chez nos petits, qui peut donner un peu de mal dans le ventre, dans le bras aussi d'injection, qui peut donner de la fatigue pour 24-48 heures, un peu de température. C'est ce qu'on voit aussi dans la vaccination normale d'un enfant normal, un peu plus d'irritabilité parce qu'ils viennent de se faire vacciner, ils ont peut-être mal au bras, donc ils le présentent comme ça, avec des symptômes comme un autre enfant pourrait avoir après une vaccination. Mais il n'y a pas de plus d'effets secondaires que ce qu'on a vu chez les enfants d'âge scolaire ou les adolescents.
Effectivement, pas plus qu'il faut. Puis peut-être en quelques secondes, bon, il y a certains parents qui hésitent. En quelques phrases à peine, qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces parents qui hésitent?
Bien, c'est sûr qu'il faut savoir qu'avec la vague d'Omicron, il y a eu beaucoup plus d'enfants qui ont été hospitalisés avec la COVID, beaucoup plus qu'avant la pandémie. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. On a des enfants qui ont des complications médicales qui vont vraiment bénéficier de ce vaccin. Puis il faut savoir qu'il y a quand même... la COVID n'est pas complètement un virus bénin pour les enfants. Il y a des enfants qui ont des COVID longs, ce qu'on appelle des symptômes qui persistent après 2 mois. On pense qu'il y a une proportion des enfants en bonne santé qui vont faire ça.
Tout à fait.
Puis aussi le
Madame
problème
Nicolui...
de la maladie inflammatoire.
Je vais être obligée de vous arrêter, mais merci beaucoup pour votre éclairage en cette fin de journée. Passez une bonne journée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Depuis des années, eh bien, le Canada s'approvisionne principalement en vaccins à l'extérieur du pays. Ottawa essaie d'être de plus en plus autosuffisant. Mais pour ce faire, il a conclu une nouvelle entente avec la pharmaceutique GSK pour la livraison et la production de doses de vaccins contre les grippes saisonnières et pandémiques. L'entente a été dévoilée aujourd'hui à l'usine de Québec où travaillent 900 personnes. Simon Bourassa était sur place.
L'été commence, mais on parle déjà de grippe saisonnière. Le gouvernement fédéral veut être prêt. Est-ce que la pandémie de COVID-19 a influencé le gouvernement Trudeau dans sa volonté d'être proactif contre l'influenza?
Oui, on aurait certainement voulu le faire parce que on sait depuis un bon bout de temps là, que la grippe et la grippe saisonnière est avec nous et va l'être très longtemps et que la grippe pandémique survient à peu près entre tous les 10 à 40 ans. La dernière fois, c'était le H1N1 en 2009, donc ça fait déjà 13 ans.
Le site de GSK à Sainte-Foy produira des millions de doses de vaccins d'ici l'automne en pleine pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que la pharmaceutique a assez de ressources pour ça?
Il y a une pénurie de main-d'œuvre, on le sait, à travers la région. Néanmoins, je suis vraiment content de pouvoir dire que GSK, on arrive à avoir les ressources. On a aujourd'hui un tiers des employés qui ont fait travail ici depuis plus de 15 ans, un tiers des employés qui travaillent depuis plus de 5 ans. Et donc, le dernier tiers, c'est la nouvelle main-d'œuvre. Mais on arrive à attirer, on arrive à former les gens dans les temps. Et donc, on n'a aucun problème en termes de main-d'œuvre cette année pour produire le vaccin.
C'est bien beau l'influenza, mais la pandémie de COVID-19 n'est pas terminée. Est-ce que GSK participe à l'effort pour développer un vaccin encore plus efficace?
Oui, chez GSK, comme chez d'autres pharmaceutiques d'ailleurs, on est vraiment à l'œuvre avec des études cliniques en cours pour produire et développer des vaccins, justement, qui sont multivalents, donc qui vont adresser multiples souches. Est-ce que ça va être là pour l'automne? C'est la grande question à laquelle que je ne peux pas répondre, mais je peux vous assurer que les efforts sont en cours. Une chose qui est aussi importante à noter, c'est qu'on a aussi aujourd'hui des traitements contre la COVID, notamment des anticorps monoclonaux, qui sont très efficaces et disponibles au Canada.
De l'Europe fait face à une des pires canicules depuis plus de 200 ans. Le mercure surpasse 40 degrés dans plusieurs pays. Il y a plus de 11 000 Français qui ont dû être évacués après le déclenchement de deux feux de forêt dans la région de Bordeaux. Plusieurs provinces ont décidé de bannir la vente des produits de vapotage aromatisés. Le Québec et Ottawa tardent encore à passer de la parole aux actes, alors que la popularité de la cigarette électronique chez les jeunes ne se dément pas. La loi encadrant l'industrie s'est peut-être resserrée quand même depuis 2 ans, mais le travail est loin d'être terminé, selon plusieurs experts. Louis-Philippe Bourdeau fait le point pour nous.
L'industrie du vapotage est en pleine expansion partout dans le monde. Au Québec, la vente de leurs produits dans les dépanneurs ou encore les stations d'essence est passée de 26 000 $ par mois en 2017 à 1,6 million de $ par mois en 2020. C'est une hausse qui s'est aussi fait sentir chez les élèves du secondaire. Selon une nouvelle étude de l'INSPQ, la proportion de jeunes Québécois du secondaire qui affirment avoir vapoté est passée de 10 % en 2016 et 2017 à 17 % en 2018 et 2019. Pourquoi ces données sont importantes aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que cette augmentation est survenue tout de suite après la légalisation nationale des produits de vapotage à base de nicotine en 2018.
Mais donc, à partir de mai 2018, ça a été légalisé et on a vu au même moment l'arrivée sur le marché canadien d'un nouveau type de cigarette électronique, les systèmes à capsules. Puis on a vu qu'au même moment, il y a eu un engouement chez les jeunes, donc ça coïncide avec cette période-là.
Il faut quand même préciser que les données de l'INSPQ ont été colligées avant la pandémie. Depuis, il y a eu des études québécoises, mais aussi américaines, qui sont venues démontrer que cette consommation aurait ralenti depuis 2020.
Que la pandémie a amené beaucoup de changements au niveau des contacts sociaux. Les mesures de confinement ont limité grandement les contacts sociaux des jeunes. Donc, il va falloir attendre les prochaines données pour savoir comment la pandémie a influencé l'usage.
Est-ce que vous avez une crainte, justement, qu'on retrouve les chiffres d'avant la pandémie?
C'est sûr que nous, on a une crainte que ça reparte un peu comme avant, parce qu'il y a quand même une dynamique qui était lourde là, dans les dernières années, puis ça m'étonnerait que ça change du jour au lendemain.
Aussi, depuis la collecte de données, il y a plusieurs choses qui ont changé au pays. Il y a des cas de maladies respiratoires qui sont liés au vapotage qui ont été détectés, une loi plus stricte sur la publicité a été adoptée et il y a désormais limite de nicotine dans les produits de vapotage.
Espérons que ça va contrer ce phénomène-là du vapotage chez les jeunes.
Mais c'est encore trop peu, selon plusieurs experts, qui demandent de bannir tout simplement l'ensemble des saveurs des produits de vapotage.
Beaucoup de jeunes continuent de consommer ces produits-là pour les saveurs. Il faut, peu importe que ce soit au provincial ou au fédéral, de vraiment boucher cette trouée et juste laisser les saveurs de tabac ou nature dans les produits de vapotage, à notre avis.
Un projet de règlement est sur la table des élus à Ottawa depuis l'an dernier, mais n'est toujours pas entré en vigueur. Même chose au Québec, où la promesse d'agir rapidement de Christian Dubé à la fin de l'année 2020 ne s'est toujours pas matérialisée.
C'est parce que plus on attend, plus il y a un nombre de jeunes qui vont commencer à s'initier avec ces produits-là, qu'on est un peu déçus là, que l'engagement d'agir rapidement soit toujours... il n'y ait toujours pas eu d'action.
Un Montréalais va parcourir le Canada à vélo de Vancouver à Montréal afin de lever des fonds et sensibiliser le public à propos de la SLA, c'est la sclérose latérale amyotrophique, qui a emporté sa mère il y a maintenant 2 ans. Un périple comme ça, bien, ça demande une préparation rigoureuse, comme nous le rapporte mon collègue Jérôme Scalia.
Trousse de premiers soins. Lundi, je pars en avion à Vancouver pour traverser le Canada à vélo. Puis en parallèle, je collecte des fonds pour lutter contre la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Au début, il y a beaucoup de montagnes, c'est les rocheuses. Puis ensuite, ça va un peu se calmer, passer Calgary, les plaines. C'est soit le vent dans le dos, soit le vent dans la face. Donc soit je suis chanceux, soit je ne suis pas chanceux. Puis ensuite, on retourne un peu plus vers de l'épineux, comme au Québec. Il y a 2 ans, ma mère est tombée malade. C'était la sclérose latérale amyotrophique, donc maladie de Charcot ou maladie de Lou Gehrig au Québec. C'est quand je vais être sur mon vélo et qu'il y aura des moments plus difficiles, je me rappellerai de ça, du fait que c'est pour elle, c'est pour toi, maman, que je fais ça. Quand on a la maladie aujourd'hui, on nous dit il n'y a pas de remède, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y en a beaucoup qui baissent les bras, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer, il faut garder espoir. On peut faire un peu une parallèle avec la maladie des gens, la souffrance des patients, puis moi ça sera une plus petite souffrance, mais sur mon vélo, je vais essayer de les représenter au maximum. Face à des intempéries, même si ton corps veut encore, là ça peut être difficile, face au vent, il fait froid, t'as le vent dans la face, t'as les montagnes, puis là t'en peux plus, en plus je vais être tout seul. Donc c'est assez difficile de gérer tout ça, je pense, mentalement. Je suis en partenariat avec l'association pour la recherche en France contre la SLA et la Société de la SLA du Québec. Donc ces dons sont reversés directement à ces associations. En vrai, j'ai peur. Je vais le dire, là, je suis un peu anxieux. Je pars, c'est la première fois que je pars vraiment tout seul comme ça. De toute façon, même si j'ai peur, je sais que maman, elle sera là pour m'aider. Puis je pense qu'elle me donnera la force quand ça ira moins bien. Et j'espère aussi sur la route croiser des gens qui me soutiendront. Puis d'ailleurs, j'encourage les gens, s'ils entendent ça, à venir pédaler avec moi sur la route au Canada et à me suivre sur les réseaux sociaux.
On reste dans le monde du vélo, mais on passe de l'endurance à la vitesse avec le Tour de France. Le Québécois Hugo Hull a terminé au 3e rang de la 13e étape. C'est tout un exploit quand on sait que le sport est très compétitif. Il a réussi à s'imposer sur un parcours de 193 km entre le bourg d'Ouassan et Saint-Étienne. Hugo Hull a commenté sa performance sur les réseaux sociaux. Il dit être très fier de sa performance. Et toute une nouvelle pour les amateurs de football, les Alouettes ont mis la main sur les droits de, Laurent Duvernay-Tardif. Ça veut dire que s'il devait jouer pour une équipe canadienne, eh bien, c'est à Montréal qu'il le ferait. Les droits appartenaient aux Stampeders de Calgary. Et ça ne veut pas dire qu'on va voir le joueur étoile sur le terrain de sitôt. Laurent Duvernay-Tardif pourrait retourner dans la NFL ou tout simplement le prendre sa retraite. Mais pour l'organisation, ça reste quand même une belle vitrine avec un ambassadeur qui a su devenir très rapidement un des athlètes préférés des Québécois. Et après 2 ans d'absence, eh bien, c'est le retour du ZooFest à Montréal. C'est un festival qui laisse place à la relève en humour, en théâtre et en musique, mais aussi à certains humoristes qui sont connus. Et la 13e édition, ça va se tenir jusqu'au 30 juillet prochain. Et je reçois sur le plateau une des humoristes de la relève qui va participer au ZooFest, Mégane Brouillard. Salut, Mégane!
Bonsoir!
Donc là, on en parlait avant d'arriver en onde. Tu es à quelques heures, en fait, de faire un spectacle ce soir. Ça va être au cabaret du 4e au Monument national. Ton spectacle s'appelle Chien-dent.
Absolument.
Mais pourquoi?
C'est parce que moi, c'était un mot que je pensais que c'était ma grand-mère qui avait inventé ça, le mot chien-dent.
Hein?
Puis, parce qu'elle a dit, faut arracher chien-dent. Il y a du chien-dent, ça pousse partout, ça pousse comme du chien-dent. Fait que je comprenais pas. Puis, finalement, j'ai réalisé que c'était juste une mauvaise herbe. Puis,
comme c'est... Ouais. Comme quoi, un pissenlit, c'était
du chien-dent. Une mauvaise herbe. Une grande affaire verte, là, okay, qui sert à rien.
Okay,
là.
Parfait.
Ça fait juste prendre la place.
Parfait.
Puis, vu que c'est ma première erreur, il y a beaucoup de chien-dent. Il y a beaucoup de mauvaises herbes à arracher pour qu'on puisse bien voir les fleurs. C'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler de même.
Mais là, raconte-nous justement ton spectacle. Tu vas parler de quoi? Qu'est-ce que tu vas arracher pendant l'heure de ton spectacle?
Il faut arracher la mauvaise herbe, qui est dans mon gamme à dire. Quand je suis stressée, je mets des sacs. Là. Fait que là, ça, il faut enlever ça ici.
Okay. Là, t'es pas stressée,
là, je suis pas stressée.
Pas.
Non.
C'est bon, c'est excellent.
Tu m'as à l'aise, ça va bien.
C'est bon.
Fait que c'est un show, c'est toutes des nouvelles jokes. Parce que moi, j'ai fait le prochain stand-up.
Oui, qui était diffusé à nouveau l'automne dernier. Ouais.
J'ai pleuré d'ailleurs dans le premier épisode. C'est super gênant, on va pas voir ça. Puis j'avais comme objectif de rien mettre qui avait été dans le prochain stand-up qui avait passé à la télé, puis de réécrire une complète nouvelle heure durant la dernière année. Fait que c'est vraiment ma dernière année en joke.
OK, quand même. Mais c'est la dernière année, fait que 2021-2022 dans ce spectacle-là. Je peux pas passer sous silence. C'est super populaire sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Puis j'ai envie qu'on ait écouté justement un extrait de ton TikTok.
À un moment donné, mon frère Marel, il est comme... Hey, t'es-tu fait un chandail avec le linge à vaisselle?
Hey, toi!
T'as pas tort.
Aujourd'hui, je fit avec mon linge à vaisselle.
Pas capable de faire fitter une paire de bobettes avec la bonne brassière. Par contre, moi pis le linge à vaisselle, on est en symbiose.
Écoute, ça m'a fait tellement rire tantôt quand je l'ai écouté. Là, j'ai comme André, j'ai l'impression, je me dis, ta chemise, ça marche avec quel linge à vaisselle
pour
ce soir?
Une coupe de linge à vaisselle en lin, là,
un
même.
Petit lin, ouais, c'est ça.
J'avais beaucoup de linge à vaisselle fripée comme cette chemise-là.
Ben, c'est parfait, c'est excellent. Mais je me disais, est-ce que ta présence sur les réseaux sociaux, ça t'aide pour ta carrière? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui connaissent juste par TikTok.
Mais ça m'a beaucoup aidé sur plusieurs aspects. Oui, pour me faire connaître, ça, c'est l'aspect à laquelle les gens pensent en premier, mais c'est surtout de créer du contenu régulièrement, sur une base régulière, de se forcer, de se mettre en danger aussi. On peut se sentir un peu vulnérable. Au début, j'étais comme, je suis pas super, super belle sur cette vidéo-là. Puis à un moment donné, t'apprends juste à laisser aller.
Oui,
puis juste essayer d'être drôle, puis d'avoir du fun là-dedans, de me réécouter aussi. Je me suis beaucoup réécoutée, fait comprendre. Des fois, je parle pas super bien. Fait de faire comme, on a échappé des mots, ça m'a super aidé à m'améliorer dans tout ça.
C'est clair. Fait que de t'écouter, ouais. Ça t'aide vraiment pour le futur. Aussi, demain, tu vas être en vedette dans le spectacle Hashtag Stand Up. Ça va être au studio TD. Puis justement, le concept, c'est en lien avec TikTok. Peut-être juste nous expliquer, ça va ressembler à quoi?
Moi, je fais de la scène à la base. J'ai décidé de faire des TikTok. Ça m'a beaucoup aidé pour ma scène. Fait que je me suis dit, sûrement qu'il y a des gens qui font des TikTok, qui font seulement des TikTok, pourraient faire le saut vers la scène.
Mégane, je vais être obligée de t'arrêter, mais ça a été super agréable. Je te souhaite un bon spectacle ce
Merci.
Soir.
Merci.
L'équipe du Canada a remporté hier la médaille d'argent lors du concours culinaire Bocuse d'or d'Amérique. C'est déroulé à San Diego, au Chili. Les États-Unis ont terminé premier, tandis que l'équipe chilienne a obtenu la troisième place. La Bocuse d'or d'Amérique est une compétition qui réunit des pays du continent américain afin de sélectionner les cinq équipes qui vont participer à la grande finale du Bocuse d'or. Elle aura lieu en 2023 et ça va se passer à Lyon, en France. Maintenant, on change de sujet. Le juge Mathieu Poliquin, qui est mis en examen par le Conseil de la magistrature, c'est lui, en fait, qui a donné une absolution conditionnelle à l'ingénieur Simon Hull, alors que le procureur demandait 18 mois de prison pour une affaire d'agression sexuelle. Les membres du Conseil vont examiner si les faits allégués sont un manquement au code de déontologie de la magistrature. Et notre collaboratrice, Nada Boumefta, sera d'ailleurs présente au fil 22 heures pour commenter et analyser, évidemment, ce dossier. Et nous aurons, bien sûr, d'autres invités ce soir au fil 22 heures parce que je vais vous y retrouver ce soir pour notre prochain bulletin. C'est donc un doublé pour aujourd'hui. Et nous allons parler notamment avec une porte-parole d'Urgence Santé pour nous parler de qu'est-ce qui va se passer avec les journées chaudes qui s'en viennent. As-tu passé une bonne journée? On se retrouve plus tard.